Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour ces conférences publiques mensuelles. Donc, on est content de vous accueillir ici dans notre amphi plein. On est content de revenir à l'IAP. Le mois dernier, on était dans notre université, à Sorbonne Université. Là, donc, on revient dans nos murs. Et bonjour également à ceux qui nous suivent sur YouTube, en direct ou plus tard à la rediffusion. Et donc, ceux qui sont sur YouTube en direct ce soir, il est possible également de poser des questions à notre orateur que je vais présenter dans un instant, faire des commentaires, n'hésitez pas. Et puis pareil, dans le public, je vous donnerai la parole à la fin de la présentation de ce soir. C'est notre dernière conférence publique de cette saison, avant la pause estivale, et nous reviendrons le mardi 3 septembre avec une conférence de notre collègue Éric Lagadec de l'Observatoire de Côte d'Azur. Éric Lagadec qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui nous présentera une conférence intitulée « Nous sommes des poussières d'étoiles », donc avec un clin d'œil au regretté Hubert Reeves. Le mardi suivant, le 1er octobre, nous aurons Jean-Charles Cuyandre du CEA qui nous présentera une conférence consacrée aux premiers résultats d'Euclide. Euclide, c'est une mission spatiale, un satellite observatoire dans lequel notre institut, l'IAP, est très impliqué. Et puis, le 5 novembre, nous aurons notre collègue de l'IAP, Alain Lecavelier, qui nous parlera des exocomètes. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Cassan. Donc Arnaud, tu travailles également ici avec nous à l'Institut d'astrophysique de Paris. Tu es maître de conférence à Sorbonne Université, donc tu enseignes la physique générale, la mécanique, la relativité, les exoplanètes à des étudiants, des étudiantes de licence, de master. Et puis, donc, tu es chercheur ici, où ta thématique de recherche est essentiellement les lentilles gravitationnelles appliquées à l'exoplanétologie. Donc tu as débuté ta carrière ici en faisant ta thèse, qui était une thèse un peu dans les époques pionnières des micro-lentilles gravitationnelles, puisque comme tu m'as dit, quand tu as débuté ce travail, aucune exoplanète n'avait été détectée par micro-lentilles gravitationnelles. À la fin de ta thèse, il y en avait, alors c'est pas juste toi, mais tu as contribué à ces travaux pionniers. Tu as travaillé également à l'université d'Heidelberg. Parmi les contributions importantes que tu as pu faire, c'est notamment un article qui est un des articles références pour la statistique des exoplanètes que tu as mené justement à partir de cette méthode des microlentilles et qui a montré que quasiment toutes les étoiles avaient des planètes extrasolaires. Et puis tu as également obtenu un résultat très important en interférométrie en faisant une image directe des arcs gravitationnels autour d'une étoile dans la galaxie, ce qui était une première. Et puis, tu consacres également beaucoup de temps à la diffusion de la culture scientifique, donc notamment ce soir en donnant une conférence, mais également en publiant des livres. Donc, tu as notamment publié des livres au titre assez accrocheur, donc « Galilée à la plage, l'astronomie dans un transat »,« Hawking à la plage, l'univers dans un transat », et puis l'un des derniers, donc « Rencontrer la vie ailleurs avec Alien », que tu as publié il y a quelques jours à peine. Sur lequel tu vas beaucoup t'appuyer pour faire ta conférence, donc qui s'intitule « La vie ailleurs ». Donc, je t'en prie.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici à la maison, je dirais, pour faire cette conférence. Ce dont je vais parler ce soir, c'est le problème de la vie ailleurs, mais évidemment, c'est un problème extrêmement, extrêmement vaste, extrêmement large. Donc, je vais essayer de voir en quoi le domaine qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire les exoplanètes, a contribué en fait à apporter des informations importantes sur la manière de penser cette question de la vie ailleurs. Donc dans cette conférence, je vais un petit peu naviguer entre le système solaire, la Terre, les planètes du système solaire et les exoplanètes pour essayer de voir un petit peu quels sont les enjeux de ces questions et quelles sont les grandes découvertes ou les avancées qu'on a pu avoir pour essayer de penser la question. Voilà. Donc, je vous propose de commencer tout de suite par une petite, pour se mettre un petit peu dans le bain. Donc, là, évidemment, cette question est associée à un imaginaire très fort, qui est aussi un imaginaire fluctuant. Et donc, si on revient un petit peu dans l'histoire, sans rentrer quand même trop dans le détail, mais on revient un petit peu dans l'histoire un peu de ces idées. Donc, à partir de l'Antiquité grecque, c'est de la période de laquelle on a des informations, évidemment. Le monde est essentiellement géocentrique, donc la Terre est au centre. Évidemment, il y a eu un certain nombre d'hypothèses avec des théories héliocentriques, etc. Mais à partir d'Aristote et surtout Ptolémée qui a écrit ces fameux traités qu'on a retrouvés, la plupart des textes ont été détruits, mais on a réussi à retrouver les textes de Ptolémée parce qu'ils avaient été diffusés sur tout le bassin méditerranéen, donc on les retrouvait. Et donc, ce sont des textes qui ont fait foi à partir du Moyen-Âge, justement, quand ils ont été retrouvés. Et donc, cette idée de géocentrisme s'est retrouvée au centre, finalement, de l'univers, si je puis dire, pendant presque 1500 ans. Et dans ce système géocentrique, on a des sphères concentriques avec la Terre au centre, et la dernière sphère, c'est la sphère des étoiles. Mais ces étoiles, elles servent essentiellement, dans cette idée, en fait, d'une sorte de toile de fond avec des petits trous, on ne savait pas exactement ce que c'était. Ce n'est certainement pas des étoiles à part entière comme le Soleil. Donc, un petit peu plus tard, même beaucoup plus tard, en 1543, évidemment, Nicolas Copernic marque un petit peu une époque cruciale avec son modèle géocentrique qu'il a osé publier, qui a été publié juste après sa mort, en fait. Et donc, dans ce modèle, là, le Soleil est bien au centre, donc on a une étoile particulière, donc le Soleil devient une sorte d'étoile, si on veut, mais les astres, tous les astres, au-delà de la Lune, et la Lune incluse, restent des astres parfaits, c'est-à-dire des boules sur lesquelles on ne peut pas avoir de forêt, de montagne, comme sur la Terre. Ça reste des objets parfaits, comme le cosmos devait être parfait au-dessus de l'orbite de la Lune. Alors, en 1610, Galilée fait des observations absolument essentielles parce qu'il construit une lunette qui s'est inspirée de modèles qui circulaient. Il a construit sa propre lunette qui était un peu meilleure que les autres. Et surtout, c'était un très, très grand savant, un très, très grand chercheur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé non seulement autour de lui, parce que c'était le but de la lunette, servait essentiellement à voir s'il n'y avait pas des armées ennemies qui venaient, etc. C'était des lunettes d'approche, en fait. Et lui, il a utilisé pour regarder le ciel. Ce n'est pas le seul. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a fait des images de la Lune, c'est pas le seul non plus, mais il a montré, il a tout réuni dans un petit livre, ça s'appelle « Le messager des étoiles », et il a tout réuni dans ce livre et il a montré que la Lune, elle n'est pas parfaite, ce n'est pas une boule parfaite. Il a démontré qu'avec, en regardant effectivement les ombres, on pouvait voir des montagnes, et ces montagnes, ça prouvait que c'était donc pas un corps parfait. Il a regardé le Soleil, il a trouvé des taches solaires, il a même pu estimer la durée de rotation du Soleil. Donc, le Soleil n'est pas un astre parfait. Donc, ça remettait en cause 1500 ans de doctrine philosophique sur la nature des astres. Il a regardé Vénus, il a vu qu'il y avait des phases. Donc, qu'est-ce qu'il y a des phases dans le système solaire qu'on connaît bien quand on est sur Terre? C'est la Lune. Donc, la Lune n'est peut-être pas si différente de Vénus, dans le fond. Et quand il a observé Jupiter, il a remarqué qu'il y avait des petits corps qui se déplaçaient autour de lui, et il a imaginé que ça pouvait être une sorte de mini-système solaire, mini-système planétaire, le Jupiter au centre, et ses quatre corps qui tournaient autour, qu'on a plus tard appelé satellite galiléen, en son honneur, plus tard. Et donc, il a montré que Jupiter, finalement, pouvait se comporter d'une certaine manière comme le Soleil. Donc, il était en train de désacraliser cette position où on ne touchait pas aux astres parfaits. Donc, ça, c'est important, si on veut se poser la question de la vie ailleurs, il faut d'abord pouvoir faire en sorte que les objets qu'on étudie soient des objets physiques et pas des objets philosophiques ou dogmatiques sur lesquels on ne peut rien dire. À l'époque de Galilée, il fallait être philosophe pour pouvoir dire des choses sur ce qu'on observait. Et donc Galilée avait négocié un poste de philosophe et de physicien pour pouvoir faire passer ses essais de physicien dans le domaine philosophique. Sinon, il n'aurait pas eu le droit. Et puis évidemment, Saturne, qu'il a observé des sortes d'oreilles, des anses, et quand il a voulu les réobserver, malheureusement, les anneaux de Saturne étaient alignés, donc il ne les a pas réobservés. Donc il a raté, entre guillemets, la découverte claire des anneaux de Saturne. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. En 1610, surtout, toujours la même année, dans le même livre, il montre que la Voie lactée, ce n'est pas une sorte de traînée brillante uniforme, mais elle est faite vraiment d'étoiles. Donc c'est plein de petites étoiles qui paraissent à l'œil nu complètement lisses, mais c'est vraiment plein de petites étoiles. Alors cette image-là, à l'œil, on ne peut pas voir comme ça, évidemment. Donc c'est trompeur, on se dit, si on regarde comme ça, on voit bien qu'il y a quand même des structures. Et en fait, à l'œil, on ne voit pas pour de vrai essayer. Et donc, il fallait vraiment cette lunette pour montrer que dans des taches claires, il y avait des petites étoiles. Donc si on se repose que notre fil rouge, c'est la vie ailleurs dans l'univers, donc aussi la multiplicité des mondes, etc., tous ces problèmes sont reliés, les planètes autour du Soleil, finalement, ne sont pas si différentes de la Terre, d'une part. Donc elles ne sont pas parfaites, ce n'est pas des corps parfaits. Deuxièmement, grâce à cette observation de la Voie lactée, il y a d'innombrables autres étoiles que le Soleil. Voilà. Et à peu près à la même époque, mais juste avant, 10 ans avant, Giordano Bruno avait été condamné, comme on le sait, pour avoir proposé la pluralité des mondes habités. Et donc, à partir de cette époque-là, les gens sont très prudents, et beaucoup de grands philosophes ont des idées sur le système, etc., mais ne les publient pas par peur d'être persécutés aussi. Et donc, il y a un certain silence qui s'installe Mais Galilée va continuer avec ses polémiques et essayer de faire valoir ses idées. On connaît la fin. Donc toujours est-il que dans ce paradigme, effectivement, on arrive à une idée qu'il y a des autres étoiles. Et là, on rejoint un petit peu les visions atomistes des Grecs. Pour certains, Grecs étaient atomistes, où ils pensaient que les atomes, il existait des atomes qui pouvaient se combiner, fabriquer des objets, et comme ils pouvaient se combiner à l'infini, ils pouvaient créer des objets à l'infini, et donc des planètes chez nous, des planètes ailleurs, et partout dans le cosmos. Donc on retrouve des idées anciennes, mais qui n'ont pas forcément été poursuivies, et qui ont été tout simplement aussi complètement occultées parfois. Donc ça, c'est un petit peu, c'est un peu les idées, l'imaginaire qui fluctue, vous voyez, en fonction des époques. Et à partir de là, on peut dire vraiment qu'on va pouvoir commencer à étudier de façon scientifique qu'est-ce qui se passe autour des étoiles, en fait. Parce qu'on sait que le Soleil est une étoile, et d'autres étoiles, est-ce qu'il y a d'autres planètes éventuellement. Donc là, je fais un grand saut. Cet imaginaire, je vais arriver à l'imaginaire d'aujourd'hui, un des grands sauts extrêmement importants dans l'imaginaire sur la vie ailleurs et les exoplanètes, c'est la conquête spatiale. Donc en 1957, c'est le lancement du Spoutnik, et à peine 12 ans plus tard, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc je ne commande pas plus, je ne vais pas vous faire l'histoire de la conquête spatiale, d'accord ? Mais là, on est vraiment dans un tremplin énorme, et très rapidement après, de façon presque concomitante, puisque la dernière mission sur la Lune, c'est 72, et là, vous voyez qu'on est début des années 70, la sonde soviétique Venera 7 se pose sur Vénus, des conditions absolument... terrible, la sonde n'a vécu que très peu de temps. Dans les années 60, début des années 72-73, il y a les sondes Pioneer 10, Pioneer 11, il y a aussi le programme Mariner américain, et en 77, le fameux programme le plus célèbre, certainement, le programme Voyager 1 et Voyager 2, qui est allé explorer les planètes géantes, toutes les planètes géantes du système solaire. Voilà. Donc à partir de cette époque-là, il y a un très grand optimisme à la capacité donc, à aller voir ailleurs, c'est-à-dire vraiment à la rigueur voyager, sur l'existence d'autres civilisations, et qu'on retrouve fortement ancré finalement dans l'univers de la fiction et en particulier de la science-fiction. Et donc on baigne finalement toute notre culture actuelle, et ça a été totalement renforcé évidemment, baigne dans cette idée de science-fiction où l'imaginaire et aussi toutes les visuels associés à la science-fiction pèsent très fort sur notre façon de penser les choses. Voilà. Et donc, il y a même des scientifiques de renom qui ont vu dans cette comète interstellaire, alors qui est vraiment spéciale, hein, parce qu'elle vient d'ailleurs, donc elle traverse le système solaire, elle n'est pas née dans le système solaire. Évidemment, c'est un objet spécial. Certains ont vu un vaisseau spatial, quelque chose de fait par une autre civilisation, pour vous dire à quel point, et c'est un scientifique très sérieux, à quel point, ça a été évidemment pas validé, on va dire, et donc ça montre à quel point cet imaginaire est ancré et peut être défendu, même... par des gens très sérieux scientifiquement par ailleurs. Donc c'est pour ça que, pour revenir effectivement, merci Guillaume pour ta présentation, pour le livre, c'est que quand on m'a proposé de parler de la vie ailleurs à travers une œuvre de science-fiction, je me suis tout de suite dit que c'était effectivement le bon créneau dans l'imaginaire pour pouvoir aborder les différents sujets qui sont associés à ça. Donc là, je vais parler de certaines parties, surtout pour les exoplanètes, l'apport des exoplanètes, comme je vous ai dit. Donc, quel est ce fameux message des exoplanètes ? Donc ça va être la première partie. Donc on était un peu sur Terre, dans la philosophie sur Terre, et maintenant, on va partir un petit peu vers les exoplanètes pour aller regarder ce qui se passe. Donc, juste avant de parler des exoplanètes, on s'éloigne un petit peu, on regarde le système solaire de loin, et sans insister, mais donc, le système solaire, il a une structure assez très, très spéciale. Il est plat, déjà, toutes les planètes sont dans la même orbite, on comprend bien pourquoi. On a des petites planètes au centre et des planètes qui deviennent géantes quand on s'éloigne. On a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et plus loin, une ceinture de Kuiper avec des corps gelés qui sont à très grande distance du Soleil. Donc là, j'ai pas résisté à l'envie de vous mettre des jolies images. Donc les planètes telluriques, elles sont à peu près à la même taille, surtout quand on parle d'exoplanètes, c'est bon d'avoir en tête les planètes du système solaire, évidemment. C'est quand même des exoplanètes. Donc la Terre, Vénus, Mercure, tout ça, Mars, ce sont des planètes telluriques, donc elles sont essentiellement formées de roches, et éventuellement, elles peuvent avoir une petite atmosphère, mais leur masse est vraiment négligeable par rapport à la masse de roches, de fer et d'autres matériaux. La ceinture d'astéroïdes, alors c'est extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de missions qui sont parties et qui ont survolé des astéroïdes, donc on a vraiment des photos d'astéroïdes de très près, donc ça c'est absolument extraordinaire. Ce n'est pas des photos prises de la Terre, c'est vraiment, on est passé devant, et on a pris des images. Donc voilà, vous en avez quelques-uns ici. Les planètes géantes gazeuses, alors celles-là, elles sont formées essentiellement d'hydrogène et d'hélium, donc elles sont vraiment très, très gazeuses. avec une sorte de noyau au fond, probablement diffus, qui a une structure physico-chimique très très particulière. Quand on va un peu plus loin, on a les planètes géantes glacées. Donc ça, c'est un vocabulaire qu'on utilise tout le temps pour les exoplanètes. Et on a rajouté du vocabulaire, mais ces structures-là, elles sont assez fondamentales. Les planètes géantes glacées, donc celles-ci, elles ont une sorte de manteau, qui est une sorte de glace ou de fluide un peu complexe, et une atmosphère, entourée d'une atmosphère aussi d'hydrogène et d'hélium, mais elles se distinguent surtout par leur énorme manteau qui contient beaucoup de glace, qui contient aussi l'essentiel de la masse. Donc elles sont beaucoup plus petites que les planètes géantes, et elles sont aussi beaucoup moins massives, puisque Jupiter fait 318 fois la masse de la Terre, et Uranus et Neptune font 14 et 17 fois la masse de la Terre. Donc c'est significativement moins gros que les planètes géantes gazeuses. Elles sont quand même géantes par rapport à la Terre, parce qu'elles font à peu près 10 fois le rayon. Encore plus loin, on a Pluton. Donc vous avez une magnifique image qui a été prise par New Horizons donc en 2015, la fameuse sonde qui est partie extrêmement vite pour aller juste aller voir Pluton et éventuellement d'autres objets après. Donc ça, c'est vraiment des images de la surface qui ont été prises à très grande vitesse. Et l'objet le plus lointain du système solaire, Arrokoth, observé en 2019. Donc cette couleur, fameuse couleur rouge hein, qui est due à tout un tas de réactions chimiques. Et on a des belles comètes aussi. Donc Albop, pour ceux qui ont eu la chance de la voir à Paris en 1995, et Chury, qu'on a vu sous toutes ses coutures, puisqu'elle a été la cible d'une sonde spatiale dédiée, avec la sonde Philae européenne qui s'est posée dessus finalement. Et que cette sonde, qu'est-ce qu'elle a découvert ? Elle a découvert elle a confirmé de façon importante, c'est que les comètes, ce n'est pas simplement des boules de neige sale, comme on l'a longtemps dit, dans la glace avec un petit peu de poussière dessus, mais c'est vraiment des composés organiques, c'est vraiment des choses comme ça. C'est pas de l'eau sale, c'est vraiment un concentré de matière organique qui est à l'intérieur. Donc c'est vraiment, ça contient énormément des acides aminés, comme ça, des briques du vivant. D'accord ? Donc c'est ça qu'il y a dans le cosmos, c'est pas juste des boules de neige. Donc ça, c'est important à bien se rappeler. Donc les exoplanètes, qu'est-ce qu'on veut faire les exoplanètes quand on est un chercheur, on essaie de les étudier. On ne se pose pas forcément les grandes questions métaphysiques, philosophiques sur la vie dans l'univers. D'accord ? Donc voilà les questions qu'on peut se poser, comment ils se forment, est-ce qu'ils sont nombreux, notre système solaire est-il unique ? D'accord ? Donc c'est la question qui nous intéresse ce soir. C'est aussi, existe-t-il des exoplanètes propices à la vie ? Et donc c'est sur cet axe-là qu'on va continuer la suite. Donc, quand on a commencé à regarder, à chercher des exoplanètes, évidemment, il a fallu un certain temps pour avoir du matériel, des instruments suffisants, parce que pendant longtemps, on ne pouvait pas observer des exoplanètes, parce qu'elles sont vraiment très, très discrètes. Ça va sans dire. Et très curieusement, les premiers objets de masse terrestre qu'on a découverts, ce n'étaient pas du tout des planètes comme Jupiter autour du Soleil, mais c'était des astres très petits, toutes petites objets de masse terrestre, mais beaucoup moins, même de la taille de la Lune, qui orbitait autour d'un pulsar. Donc un pulsar, une étoile qui a explosé, qui est un petit résidu, qui reste un pulsar, et on a trouvé des objets autour de ce pulsar. Donc c'était très étonnant, évidemment, on s'attendait pas du tout à ça, parce que quand même, il s'est passé pas mal de choses pendant l'explosion de l'étoile. Mais c'est vraiment, les premiers objets de masse planétaire trouvés. Donc là, typiquement, on regarde les ondes radio envoyées par le pulsar et on regarde comment ça change et on est capable de dire qu'il y a quelque chose qui tourne autour, qui déplace le centre de gravité. Ça se passe comme ça. Mais là, vraiment, la planète qui a vraiment changé les esprits, et effectivement, la conférence du mois dernier de Michel Mayor a parlé exactement de sa découverte. Voilà, j'espère que vous avez visionné sa conférence. Donc c'est 51 PEG B, voilà, qui est en 95, donc qui est une planète qui tourne autour d'une étoile comme le Soleil. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut voir, on peut se projeter, disons, dans ce système. Mais en fait, sa période n'était pas de 10 ans comme Jupiter, elle était de 4,2 jours. Donc c'est pour ça que Michel Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence, qui est ici, voilà, Guillaume va être content... c'est extraordinaire parce que la plupart des gens cherchaient des planètes à très grande période, on s'attendait à ce qu'elles tournent autour de 10 ans autour de leur étoile, et ils ont pris ce signal de très très court au sérieux et ils en ont fait la première planète extrasolaire détectée. Mais elle est très spéciale parce que si vous regardez le système solaire qui est donc la petite bande, voilà, hop, j'ai pas de pointeur mais c'est pas grave, la première où il est marqué Inner Solar System, vous voyez donc Mercure, et cette planète 51 PEG, et fait que la moitié de masse de Jupiter. Donc c'est vraiment une planète géante, mais vous voyez à quelle distance elle se trouve. C'est quelque chose qui est absolument incroyable pour l'époque, et je pense aujourd'hui aussi. Moi, je trouve ça incroyable, même si on sait pourquoi elle est là. Donc ça, ça a vraiment beaucoup changé. Donc un Jupiter chaud, image d'artiste d'un autre Jupiter chaud, c'est ça. C'est vraiment une planète qui est géante comme ça et qui est vraiment très très proche de son étoile. Voilà, ça c'est les premières planètes détectées. Et c'est ces planètes qu'on a détectées au début. Et on s'est dit, bon ben, soit elles sont très nombreuses, soit on n'arrive pas à détecter les autres. Et bon, il fallait du temps, un petit peu, pour savoir, et on verra un petit peu tout à l'heure, pour faire la part des choses. Donc cette méthode, ça a utilisé la technique de l'effet Doppler, hein, qui ont été abordées dans d'autres conférences, donc je ne vais pas insister. En 2000, donc vous voyez que c'est très récent, ça fait à peine, donc la première découverte c'était il y a à peine 30 ans, et les autres méthodes, hein, celle-là c'est il y a à peine 25 ans on va dire, vous voyez, c'est extrêmement récent, donc on est vraiment dans l'actualité scientifique des exoplanètes. Donc ça, c'est en 2000 la première détection par transit, une planète qui passe devant son étoile et qui obscurcit un petit peu la lumière, le disque, et donc on reçoit un peu moins de lumière et on peut comme ça détecter une exoplanète avec plein de difficultés techniques, hein, évidemment. Mais donc plusieurs projets, on peut remarquer les télescopes sont souvent petits parce que en fait, les étoiles, en l'occurrence, elles étaient brillantes. Donc on n'a pas besoin de gros télescopes et même c'était plutôt embêtant. Voilà, donc en 2004, toujours dans cette partie historique, hein, je ne parle pas de l'actualité des détections dans cette conférence, en 2004, une première détection par imagerie directe. Donc pour ça, on va prendre des grands télescopes et on essaie en fait de bloquer la lumière de l'étoile pour essayer de voir ce qu'il y a à côté. Donc ça, c'est typiquement ce que font les coronographes. Il y en a, par exemple, dans le télescope James Webb, dont vous avez tous entendu parler, évidemment, et je vais montrer aussi des résultats, où on essaie de masquer l'image d'étoile pour voir un petit objet qui est 100 millions de fois moins brillant à côté. Donc c'est un exploit technologique et il a fallu attendre toutes ces années pour, avec des coronographes absolument très très intelligents, je dirais, pour pouvoir voir ce qu'il y a à côté des étoiles, parce que c'est à la fois très proche et le contraste est à la fois très très élevé. En 2006, il y a une découverte à laquelle j'ai participé pendant ma thèse, qui était mentionnée par Guillaume, c'est la découverte de cette exoplanète. C'était la première planète super-Terre froide, en fait, c'est-à-dire plutôt à grande distance de l'étoile, 2,6 unités astronomiques, presque trois fois la distance Terre-Soleil, et une super-Terre, première super-Terre, donc cinq fois la masse de la Terre. Et donc on s'attend à un monde gelé ici, où... Donc voilà, c'était en 2006. Et c'était détecté par la méthode dite des micro-lentilles gravitationnelles. Alors, je vais juste en dire deux petits mots pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc ça, vous avez une représentation de notre galaxie par la tranche. Et on voit ici, donc, au centre de la galaxie, on voit une étoile orange dont les rayons se déplacent dans toutes les directions. Et en particulier... ces rayons vont passer devant une étoile qui est indiquée en jaune, ils vont être déviés par un phénomène de relativité générale, ils vont arriver vers le Soleil. Et donc, dans cet effet de ce qu'on appelle de micro-lentille gravitationnelle, qui a été prévu par Einstein, eh bien, on s'attend, on le voit sur la droite dans les graphes A et B, mais on s'attend à ce qu'il y ait un effet d'amplification lumineuse, donc ce n'est pas simplement la déviation des rayons lumineux qui compte ici, d'accord, mais c'est aussi le fait qu'il y a un phénomène où on observe plus de lumière quand l'alignement devient meilleur. Et si on a une petite planète qui passe accompagnée de l'étoile rouge qui est la micro-lentille, eh bien, on s'attend ici à un deuxième petit pic. En pratique, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée est là. Voilà. Et donc, avec ça, on va pouvoir détecter des planètes qui sont plutôt loin. Donc, toutes ces méthodes, elles ont une grande complémentarité. Certaines méthodes arrivent à voir des planètes très proches de l'étoile, d'autres méthodes qui vont voir des planètes très loin de l'étoile. Et donc, on a besoin de toutes ces méthodes pour explorer plusieurs aspects des exoplanètes, que ce soit en termes de population, en termes de caractéristiques. Donc ça, c'est important de se rappeler qu'on ne peut pas miser tout sur le même... on ne peut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, d'accord ? Et qu'il faut toujours garder une pluralité de méthodes parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles vont donner et on ne pouvait pas prévoir au début qu'elles allaient être complémentaires, mais c'est vraiment le cas. Donc cette croissance... une croissance très rapide des découvertes, mais rapide parce qu'on regarde avec le temps, mais dans les premières années, il ne se passait rien. quelques planètes détectées en 95, parce que finalement les gens regardaient dans leurs données et ils ont trouvé d'autres planètes, donc ils les ont du coup publiées juste après. Et en fait, progressivement, on a détecté des planètes, à la fois on en a détecté de plus en plus, vous avez sur l'axe horizontal, vous avez le temps, vous avez de plus en plus de points noirs, donc de plus en plus de planètes détectées, c'est jusqu'à 2010, et vous voyez que la courbe elle se déplace globalement vers le bas, et vous voyez, à gauche, j'ai mis les planètes, c'est-à-dire qu'on trouve des planètes de plus en plus proches, de masse de plus en plus proches de celles de la Terre. Donc on est capable d'aller sonder des planètes de plus en plus petites et qui ressemblent de plus en plus aux planètes telluriques qu'on a dans le système solaire. C'est celle qui nous intéresse, si on veut évidemment parler de la vie. Donc, un des grands résultats qui sort de tout ça et qui a été en fait aussi trouvé par vraiment les différentes méthodes, c'est que les planètes, elles sont vraiment nombreuses. Il y a vraiment beaucoup de planètes. Tous les systèmes planétaires ne sont pas forcément multiplanétaires. Il peut se passer beaucoup de choses lors de la formation. Mais en moyenne, la formation planétaire, et ça c'est un message clair des données, la formation planétaire est une conséquence directe de la formation des étoiles. Et ça, ce n'était pas du tout une idée qui était évidente, puisque dans les années 30, on avait des scénarios assez exotiques pour former des planètes. Et il fallait par exemple arracher à une étoile de la matière qui faisait une sorte de filament comme ça, qui pouvait se briser en petits morceaux pour fabriquer plus tard des planètes. Il fallait qu'il y ait un événement exceptionnel pour fabriquer des planètes. Et notamment James Jeans, qui est un très grand nom de la physique, pensait que c'était le scénario adéquat pour former des planètes. Donc ce n'était pas du tout évident qu'il y ait beaucoup de planètes, et maintenant on sait que c'est vraiment une conséquence directe de la formation des étoiles. Les étoiles sont accompagnées de disques, et ces disques forment des planètes. Donc, en moyenne, il y a plus qu'une étoile. Et cette petite vidéo vous montre un petit peu une représentation qu'on a, évidemment, elle n'est pas du tout à l'échelle, hein, il va sans dire, mais ça donne cette idée que quand on regarde des étoiles, il ne faut pas imaginer des étoiles, il faut vraiment imaginer des systèmes planétaires. C'est ça, le cosmos, c'est ça. Notre galaxie, c'est ça. Deuxième grande découverte très importante, c'est qu'on a découvert des types de planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Et plus exactement même, on a découvert des continuités en fait, entre les types de planètes. Qu'on pouvait passer, par exemple, d'une planète de type quelque chose qui ressemble un peu à Neptune, mais en plus petit, on pourrait dire un mini-Neptune, qu'on peut augmenter un peu la masse, et tranquillement, comme ça, augmenter la masse, les roches, le gazeux, et on peut tranquillement, comme ça, arriver aux planètes de type Jupiter, géante gazeuse. Ça ne veut pas dire que c'est le même scénario, d'accord, mais ça veut dire qu'on a toute une continuité de possibilités de fabriquer des planètes différentes. C'est ça que ça veut dire. Alors là, j'en montre quelques-unes. Par exemple, pour les planètes un peu telluriques, bien, vous avez la planète Terre sur la droite, et on détecte des planètes qui sont plus massives, des super-Terres, et jusqu'à des masses assez importantes, hein, peut-être une dizaine de masses terrestres. Et pour ces mêmes masses, et ça, je n'ai pas mis de slide, mais ça a été détecté un peu plus tard, on peut aussi avoir des planètes d'une dizaine de masses, une 5 masses de 5 fois la Terre, qui n'est pas rocheuse, mais qui ressemble à une version de Neptune, c'est-à-dire avec un cœur glacé, etc., et une enveloppe gazeuse, mais qui donc, est beaucoup moins dense, donc beaucoup plus, le rayon est beaucoup plus grand, mais qui est aussi massive, qui fait le même poids. Et donc, pour ces masses-là, on peut avoir deux types de planètes complètement différents, les rocheux et des planètes avec une atmosphère et un cœur glacé, et un manteau glacé. Plus éventuellement des planètes qui auraient des cœurs de planètes qui auraient perdu leur atmosphère pour des raisons X, Y. Voilà. On a aussi découvert des planètes Jupiter enflées. Alors ça arrive sur les Jupiter chauds, pas tous, mais quand ils sont très proches des étoiles, il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent induire un chauffage à l'intérieur de la planète. Hein, donc il n'y a pas qu'un seul mécanisme, c'est pas juste pas parce qu'il fait chaud que ça enfle, un mécanisme un peu plus subtil. Mais l'idée, c'est de chauffer ces exoplanètes, ces Jupiter, et de les rendre beaucoup plus massives. Et donc, on a comme ça des Jupiter enflés, qui sont peu denses, et qui sont quand même beaucoup plus gros que Jupiter, et qui ne sont pas non plus des naines brunes, des étoiles ratées. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir toute cette panoplie de planètes. Alors, les planètes se forment aussi autour d'étoiles doubles, ce qui est assez intéressant, puisqu'en fait, quand on a une étoile, par exemple, le cas de droite, vous avez deux étoiles, et une planète qui tourne autour d'une étoile. Donc ça, si vous des étoiles, elles sont assez loin, par exemple, ça ne pose pas forcément de gros problèmes, puisqu'elles peuvent faire leur disque, et puis s'influencent, mais peut-être, ça peut être, il y a des configurations qui sont stables, ça se comprend assez bien si les binaires, par exemple, sont éloignés. Et effectivement, ces objets-là ont été détectés assez tôt, finalement. Les objets qui ont été détectés beaucoup plus tard, c'est les systèmes à deux étoiles. Donc vous avez ce qu'on appelle les exoplanètes circumstellaires autour de deux étoiles. Donc c'est le cas de gauche. Et dans ce cas-là, vous avez un disque qui s'est visiblement formé autour des deux étoiles, qui a gardé une certaine stabilité et qui a pu former à l'intérieur une planète de type Jupiter. Et ça, c'est typiquement ce qu'on verrait dans Star Wars. Tatooine, donc là évidemment, science-fiction nous avait devancé, mais c'est son rôle aussi, on pourrait dire. Par contre, vous voyez que la planète, elle est rocheuse. Ah, ça, on n'a pas trouvé encore. Des orbites planétaires extrêmement excentriques aussi ont été trouvées, par exemple, ici on voit à droite. Donc toutes les orbites ne sont pas circulaires. Si on s'attend à ce que toutes les planètes se forment dans un disque et qu'elles évoluent gentiment et qu'à la fin le disque s'en va, etc., et il ne reste plus que les planètes, on s'attend à ce que tout soit bien circulaire et bien plat, mais évidemment il y a beaucoup de phénomènes physiques qui interviennent, et donc on observe chez les exoplanètes des systèmes très elliptiques, vraiment très très elliptiques. Donc ça a été aussi une découverte, puisqu'on n'a pas ça dans le système solaire, c'est notre système solaire, toutes les planètes sont sur des cercles, et avant 1995, quand on faisait des modèles, et c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, quand on faisait des modèles de formation planétaire, il fallait absolument que les planètes soient bien circulaires et aux bonnes positions, sinon le modèle n'était pas bon. En fait, en réalité, ce qui n'était pas bon, c'était la représentation. Voilà, le système solaire n'est qu'un cas particulier, et on en dira deux mots tout à l'heure. Donc aussi, des choses très bizarres, des systèmes extrêmement compacts, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant dans les exoplanètes. Si vous regardez le système de gauche, alors, vous voyez l'orbite de Mercure, et alors, à l'intérieur, pratiquement, de l'orbite de Mercure, vous avez un système avec presque, alors, combien de planètes ? 5 planètes à l'intérieur du système de Mercure. Alors qu'on pensait que Mercure, vraiment, c'était une planète très interne au système solaire, elle est très proche, l'observer, c'est très compliqué, il faut attendre certains moments très particuliers, le matin, le soir, dans l'année, etc. Et là, on a carrément des systèmes planétaires à ces distances-là. Et il y a aussi des planètes flottantes, et ça, c'est des planètes qui sont détectées par... Donc on peut les voir quand elles sont très jeunes, ici on a un objet qui est lumineux, donc une planète qui vient de se former, elle est jeune, elle est très brillante, et donc on peut l'observer directement. Par micro-lentille aussi, on peut l'observer, parce que les micro-lentilles, en fait, ça ne dépend pas beaucoup de la masse. On peut avoir un signal qui est fort, même si la masse est très faible, pour ces objets isolés en tout cas. Et une explication possible, c'est que vous avez dans le système, vous avez éjecté un moment des planètes, et donc on se retrouve comme ça, et ça pourrait être des orbites elliptiques, peuvent aussi être des indices qu'on a eu des éjections de planètes. Donc les éjections de planètes, ce n'est pas des choses du tout exotiques. Hein. Quand vous avez plusieurs planètes, elles interagissent, et rien ne dit qu'à bout d'un moment, ça ne va pas devenir chaotique et éjecter des objets. Donc ce n'est pas une surprise. La question, c'est est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas ? Et la réponse, elle est, il y en a une proportion significative. Voilà, ce n'est pas du tout des cas isolés. En fait, il y a pas mal de planètes qui se baladent dans le cosmos, dans la Voie lactée. Cosmos, c'est peut-être un petit peu... Et alors, le cas que j'aime bien, c'est qu'autour de l'étoile Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, eh ben, il y a une planète. Donc ça, c'est marquant. Vous avez l'étoile la plus proche de vous et vous avez une planète. Donc ça prouve à quel point les planètes, elles sont omniprésentes, elles sont là. Donc, après 95, on se retrouve, et ça, c'est l'idée forte, vraiment, des exoplanètes, on se retrouve avec une extraordinaire diversité de systèmes. Et là, j'ai pris une ancienne image qui était en fait une image animée, qui date de très longtemps, où chaque petit objet vert jaune tourne autour d'une étoile, et donc je ne me rappelle plus le codage de tout ça, de à quoi ça ressemble, à quoi ça fait référence, mais on voit qu'il y a plein de planètes de tailles différentes qui tournent plus ou moins vite autour de toutes ces étoiles, et ça, je trouvais que c'est une belle image de la diversité des exoplanètes. Alors cette diversité, elle s'explique, bien sûr. Et elle s'explique, en fait, par les nombreux processus qui ont lieu au cours de la formation planétaire. Donc, il y a eu une conférence ici de Philippe Thébault qui en a parlé en détail, donc je vous invite à aller la voir, donc je ne vais pas en parler en détail. Mais tous ces processus peuvent fabriquer des planètes de façon très très diverse. Ça c'est vraiment important. Donc tout commence en quelques mots. Hein, tout commence donc dans les nuages. Donc j'ai encore une fois cette magnifique image qui est dans le hall de l'IAP. D'un nuage, c'est pas n'importe quel nuage, c'est des nuages moléculaires. Et donc on va avoir un effondrement du gaz. Le gaz s'effondre. Il se fragmente en petits bouts. Il se refragmente en petits bouts. Et puis il donne des petites étoiles qui est entouré d'un cocon. Ce cocon, progressivement, il s'aplatit, il s'affine, une partie est éjectée, ça va donner un disque protoplanétaire, et c'est là-dedans que vont se former les exoplanètes. Donc là, on a typiquement ce schéma, qui est un schéma très, très général, d'accord, et qui n'explique rien, en fait. Il n'explique rien, il nous dit qu'on a une nébuleuse primitive, et qu'à la fin, ça fait un disque, ça fait des planètes, d'accord. Donc, c'est vrai. Mais ça n'explique rien parce que la physique est extrêmement complexe à l'intérieur. Alors, ces disques, ils existent. Alors, dans les années 90, on avait déjà repéré des petits objets denses, diffus, avec des petits jets comme ça de chaque côté, et puis une sorte d'assombrissement au milieu qui suggérait qu'il y avait un disque. Et effectivement, il y avait bien un disque. Quand on a un disque et qu'on a de la matière qui tombe sur une étoile, on a des jets comme ça, polaires, comme dans les trous noirs, vous savez, qui se dessinent comme ça. Mais c'est vraiment en 2014 qu'on a la première image détaillée d'un disque protoplanétaire avec l'observatoire ALMA, hein, donc dans des ondes radio, et avec la structure détaillée d'un disque protoplanétaire. Donc ça, cet objet avait été publié par le site de l'ESO sans aucun article, et les gens sont arrivés, ils ont vu ça, et tout le monde était vraiment, vraiment scotché, je crois que je peux le dire comme ça. Et la question qui s'est posée, c'est que sont ces structures noires à l'intérieur? Alors, ce n'est pas des planètes forcément, parce que en fait, c'est vu à une seule longueur d'onde, et quand vous regardez une seule longueur d'onde, et ben, vous ne voyez pas la même chose. Par exemple, si vous regardez dans une caméra infrarouge, une caméra visible, vous ne voyez pas les mêmes choses. Donc ça, c'est comme c'est que certaines longueurs d'onde très précises, et il se passe beaucoup de choses dans les disques, il y a des molécules qui passent de l'état gazeux à l'état glacé, des choses comme ça, et donc elles changent leur interaction avec la lumière, et donc des fois on voit des noirs et des fois on voit donc brillant. Donc c'est très compliqué. Donc ça, c'est des choses qui ont été étudiées en détail. Et par exemple, un petit panel de disques que j'aime bien, il y en a beaucoup maintenant qui ont été observés à la fois dans les ondes radio, mais aussi dans le visible, avec le télescope du Chili, le VLT. Et en fait, on observe, notamment, regardez celui de en haut à gauche, on a vraiment l'impression qu'on voit la forme évasée du disque. La forme évasée du disque est quelque chose qui est vraiment prévu par la théorie, tout simplement parce qu'on s'éloigne, et donc la gravité devient moins forte, et donc le gaz étant une pression, il va tendance à pousser plus fort, et donc on va avoir un disque qui s'évase comme ça vers l'extérieur. Et au milieu, au centre, enfin sur le bord, on voit la partie obscure, hein, qui est le centre du disque, où toute la poussière qui n'est pas retenue par la pression du gaz, eh bien, elle va tomber et elle va se mettre vraiment sur le plan du disque. Et c'est cette poussière-là qui représente à peine 1% de la matière présente dans le disque protoplanétaire. C'est cette matière-là qui va fabriquer les corps solides au début, comme la Terre, par exemple. Donc c'est des masses extrêmement faibles, mais ça suffit pour fabriquer des planètes qui sont des tout petits objets sur le point de vue astrophysique, en fait. Et puis vous avez des bras spiraux, comme dans tous les disques, puis avoir des instabilités, des choses comme ça. Donc les processus physiques dans les disques sont compliqués. Voilà, donc là vous avez. Alors qu'est-ce qui joue? Ben, la température, vous n'avez pas la même température, vous avez du rayonnement de l'étoile, vous avez tout un tas d'instabilités dues au champ magnétique à l'intérieur. Et il y a un grand scénario, qui est le scénario de gauche, qu'on appelle le scénario d'accrétion par le cœur, où en fait vous fabriquez d'abord, et c'est le petit 1 qui est écrit en haut à droite dans le carré, c'est on accrète d'abord les corps solides avec plein de difficultés. On part de petits corps micrométriques qui collent bien parce que c'est des forces de Van der Waals, comme un moustique tient sur un mur, d'accord, ça fait des forces électrostatiques. Et puis après, ça devient plus gros, ça tient de moins en moins, et puis après, ça cogne, ça se casse, ça fait plein de problèmes. Mais l'idée, c'est qu'on arrive après à accumuler comme ça des gros corps qui vont après éventuellement collisionner. Enfin, ils vont se taper les uns entre eux, ils vont grossir, il y en a quelques-uns qui vont être sélectionnés, et les plus gros pourront accréter une atmosphère et devenir éventuellement des planètes gazeuses si les conditions sont réunies. Voilà. Et à droite, vous avez une autre manière de fabriquer des planètes, mais ça, il faut être très loin dans des disques massifs et froids, et dans ces cas-là, on peut fabriquer des grosses planètes très loin de l'étoile, directement par effondrement local, en fait, si on veut, par turbulence, dans les petites zones de surdensité. Vous voyez qu'il y a des choses qui se... des sortes de petits filaments qui s'intersectent en des points, ben ça peut s'effondrer pour fabriquer éventuellement des planètes. Hein, ce n'est pas le scénario fondamental, c'est celui de gauche. Les planètes migrent au cours de leur formation, et c'est ça qui explique qu'on a découvert la planète 51 Peg si près de son étoile. Donc je vous rappelle, qui fait le tour de son étoile en 4 jours, 51 Peg B. Et donc ça, c'est à la fois une découverte et à la fois, ce n'est pas une découverte. Parce que ces phénomènes de migration, du fait que vous prenez un objet dans un disque et que vous le faites tourner et qu'il va créer des forces de marée autour, etc., et qu'il va être forcé de changer d'orbite, et généralement, il va aller vers l'étoile, ça, c'était des choses qui étaient déjà prévues dans les années 60, mais que les gens avaient ignoré, parce que c'était embêtant, notamment pour le système solaire, parce qu'on ne veut pas que Jupiter se mette subitement à se rapprocher de l'étoile, voire à tomber dans l'étoile. On aime bien qu'on pensait qu'il était... On l'avait trouvé à 5 unités astronomiques, il s'est formé à 5 unités astronomiques, et puis on était bien dans cette idée-là. C'était le paradigme du système solaire, le paradigme de formation planétaire avant les exoplanètes. D'accord ? Mais les exoplanètes nous ont montré que les objets bougent dans le disque, qui peuvent changer de position, et éventuellement arriver très proche de l'étoile, et après, s'il n'y a plus de gaz, en fait, ils ne peuvent plus interagir, et donc ils s'arrêtent. C'est comme si vous êtes sur une vague. Quand vous avez l'eau, ben, la vague, vous êtes sensible aux vagues, et puis quand il n'y a plus d'eau, ben, vous n'êtes plus sensible aux vagues, vous restez où vous êtes. C'est ça l'idée. Et donc, on a remis en cause aussi l'histoire même du système solaire, avec Jupiter, qui se serait rapproché du Soleil en grossissant, qui aurait été rattrapé par Saturne dans une résonance, et qui serait reparti vers l'arrière. Voilà. Donc ça, voilà, ce que nous ont appris les exoplanètes. Donc le panorama actuel, 5200 exoplanètes, alors il faut regarder les exoplanètes.eu pour avoir les derniers chiffres, les dernières répartitions entre les méthodes, entre les caractéristiques, etc. Mais surtout une très très grande diversité d'histoires et de configurations, c'est important. Alors lesquelles, pour notre fil rouge, la vie ailleurs, lesquelles seront propices à l'éclosion de la vie et à son maintien au cours des âges ? Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher un peu en détail et revenir sur Terre, et parler un petit peu de l'apparition de la vie sur Terre, un peu les énigmes. Alors évidemment, personne ne sait comment on passe de l'inerte au vivant encore, d'accord, mais il y a des faits importants qu'on peut prendre et qui vont nous permettre de penser ce qu'on détecte en exoplanète, de pouvoir les penser et de pouvoir essayer d'interpréter et de pouvoir apporter des arguments qui pourront à cette question, d'accord, à défaut d'apporter une réponse. Donc les premières formes de vie microbiennes, on les trouve en fait dans des structures qui s'appellent les stromatolites. Donc là, vous avez une image récente au milieu de l'écran. Donc c'est des structures qui sont produites par des bactéries. Ça fait des sortes de pylônes comme ça. Et à droite, vous avez un stromatolite fossile qui sont âgés de plusieurs milliards d'années. Et donc à partir de ce genre de données, on estime que les premières formes de vie, alors c'est pas des fossiles, hein, c'est vraiment le résultat de leur métabolisme, etc. On estime que c'est le début de la vie sur Terre observable. Donc, c'est moins 3,5 milliards d'années, pardon, et, ou peut-être jusqu'à moins 3,8 milliards d'années si on accepte certains stromatolites. D'accord ? Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'arguments, les fossiles, mais aussi tout l'environnement, etc. Voilà. Donc, on peut partir sur cette idée de la vie qui s'est formée il y a 3,5 milliards d'années, la Terre, ou 3,8, et la Terre a été formée il y a 4,56 milliards d'années. Donc si on regarde, c'est extrêmement proche. Ça veut dire que les premières signes de vie, hein, c'est pas des signes de vie, datent de très rapidement, quelques centaines de millions d'années après après la formation de la Terre. Et il est probable que les ancêtres de cette vie étaient encore plus anciens, dans la chimie prébiotique initiale. Il fallait bien arriver jusque-là avant, par des étapes intermédiaires. On n'imagine pas que ça va se former directement. Et en tout cas, ce n'est pas les hypothèses qui sont retenues actuellement. En 1953, une découverte majeure est faite, évidemment, c'est la découverte de la structure de l'ADN. Alors, comme vous connaissez tous la structure en double hélice de l'ADN, je vous ai mis l'image de la molécule qui avait été fabriquée avec des plaques en 1953, des plaques de fer, etc., pour montrer la structure. Alors, elle est beaucoup plus difficile à comprendre que dans les images modernes, mais voilà ce qu'avaient trouvé Crick et Watson et puis leur collaboratrice à ce moment-là. Et donc, l'ADN, du jour au lendemain, c'est devenu la molécule de l'hérédité, puisqu'on savait qu'il y avait dans les cellules, il y avait quelque chose qui propageait l'hérédité, c'était connu. On n'avait pas élucidé la structure, cette fameuse structure en double hélice. Il y avait des différentes hypothèses, des hélices plus ou moins complexes. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que cette structure exacte s'est révélée. Et rapidement, en fait, cette molécule de l'hérédité s'est changée en molécule de la vie. Et donc, en faisant un raccourci un peu rapide, on avait découvert la molécule de la vie. Donc, il suffisait d'avoir un peu d'ADN et paf, la vie commençait. D'accord ? Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple. Alors, pour que ces molécules fonctionnent et pour qu'elles puissent faire des réactions chimiques sur Terre, on pense qu'il faut de l'eau. Parce que si vous n'avez pas d'eau, c'est embêtant. Il n'y a pas de possibilité que les molécules bougent. Il n'y a pas de... Donc, l'eau, c'est vraiment... Il y a peut-être des cas... d'autres cas, mais en tout cas, l'eau, c'est vraiment à la base des recherches sur les exoplanètes et aussi sur l'origine de la vie. Donc, ce qui est étonnant avec la Terre, et j'y reviendrai un tout petit peu après, c'est que les océans sont toujours été présents sur Terre. Et ça, on le sait, parce qu'on a trouvé des zircons, qui sont ces petites roches, comme j'ai mis ici en bas à droite, qui sont des roches qui témoignent, en fait, qu'il y avait de l'eau à cette époque. Et ça, on les retrouve dans les roches les plus anciennes. Donc ça veut dire que le climat, la planète Terre, s'est arrangé, entre guillemets, pour maintenir de l'eau liquide à sa surface pendant toute la durée, pendant toutes ces milliards d'années. Donc, ce qui est assez extraordinaire. Alors, en 1153, à peu près à la même époque que la découverte de la structure de l'hélice, double hélice de l'ADN, Stanley Miller fait des expériences qui ont marqué les esprits historiques, on peut dire. On le voit ici au milieu avec ses expériences. En fait, il a dans un ballon, il a mis des molécules qui pensaient constituer l'atmosphère primitive. En fait, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Il a mis des éclairs pour mimer les éclairs. Il a mis une solution en dessous. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert des acides aminés qui se créaient dans son petit ballon. Alors les acides aminés, c'est super intéressant parce que c'est des briques de la vie. C'est-à-dire qu'on prend des acides aminés, on les met ensemble et on fabrique des protéines. Et les protéines, c'est ce qui fabrique tous les êtres vivants. On ne peut pas être vivant sans avoir de protéines, ce n'est pas possible. On a besoin de ça. Et donc, il y a un engouement énorme, et ça a marqué la chimie prébiotique, et l'intérêt pour la chimie prébiotique, c'est-à-dire la chimie adaptée, appliquée au tout début de l'origine de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est comme ça a été concomitant à la découverte de la structure de la double hélice de l'ADN, bien rapidement, on s'est dit, il y a de l'ADN, on peut fabriquer des acides aminés, on va assez facilement fabriquer des êtres vivants. Alors, cependant, et ça c'est une question qui est intéressante, parce que souvent elle est posée, on trouve des quantités de molécules organiques dans le milieu interstellaire. On en trouve plein. Et on trouve aussi des acides aminés dans les comètes. Donc finalement, l'expérience de Miller, en soi, elle n'est pas essentielle du point de vue de la création d'acides aminés, parce qu'on se rend compte que dans l'univers, même si c'est des molécules qui nous paraissent complexes, qu'elles peuvent être cassées par certains rayonnements, etc., finalement, ces molécules, elles sont très présentes. D'accord ? Donc on n'a pas de raison particulière de penser que sur Terre, ce serait l'exception, elles ne se fabriqueraient pas sur Terre du tout, et qu'elles feraient forcément créer ailleurs que sur Terre. Voilà. Donc ça, c'est une petite remarque importante. D'accord ? Donc ça ne remet pas en cause du tout l'intérêt des expériences de Miller et tout ce que ça a généré dans l'étude de la chimie prébiotique. Mais en tout cas, ces briques du vivant, ces molécules organiques, elles sont vraiment présentes dans le cosmos. Ça, c'est important de savoir. Je l'avais dit un petit peu en introduction tout à l'heure sur la comète Chury que je remontre ici. Donc la molécule d'ADN, il y a quand même un problème. C'est que c'est une macromolécule, comme je l'ai mis dans le titre, et cette molécule, elle est extrêmement complexe. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas apparaître spontanément, c'est impossible. Vous pouvez mettre dans une mare des ingrédients, et puis à la fin, vous avez une probabilité, ça n'a jamais été calculé, mais c'est impossible de fabriquer par chance une molécule d'ADN, c'est totalement impossible. Alors si on regarde ici, par exemple, dans ce que j'ai mis en blanc, en fait, les deux brins d'ADN, évidemment, on sait que les nucléotides s'associent par paires, et en fait, si on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a des liaisons ici qui sont exactement en face. C'est-à-dire qu'il faut exactement que ce soit les bonnes molécules en face, parce que si ce n'est pas en face, ben ça ne tient pas, donc les deux brins. Donc rien que la molécule d'ADN, sans parler de toute la complexité du vivant et de toute la machinerie absolument extraordinaire qu'a mis le vivant pour fonctionner, d'accord, rien que la molécule d'ADN déjà est extrêmement compliquée. Donc l'idée qui ressort de ça, c'est qu'il faut certainement passer par des phases Alors oui, je voulais dire d'abord, juste avant. Donc cette molécule d'ADN, elle a notre problème. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'enzymes, c'est-à-dire de catalyseurs, pour être fabriquée. Il faut bien la fabriquer, il faut prendre les éléments, les nucléotides, et les mettre les uns à la suite des autres pour fabriquer la molécule d'ADN. Or, c'est elle qui code pour ça. Donc on est vraiment dans le problème de l'œuf et la poule. Elle doit coder pour sa propre fabrication. Donc qui est-ce qui est d'abord, les éléments ou la molécule? Donc ça pose un vrai problème, un vrai paradoxe. Donc, une des idées qui permet de résoudre le problème, il y en a d'autres, mais ça c'est une idée qui est importante, c'est qu'il faut passer par une phase où il n'y a ni ADN ni ARN, où il y a un métabolisme primordial, c'est-à-dire création de molécules avec des cycles, etc., qui ne passe pas en fait par ces molécules qui codent, mais qui sont des réactions organiques en fait, qui ne sont pas orchestrées. Dans la fabrication, n'est pas orchestrée par ces molécules, donc avec d'autres constituants qui se forment et quelque chose qui sera vraiment organique et pas biotique. Voilà. Alors pour ça, les extrémophiles sont venus en renfort, et ça c'est en 1967, on a découvert, c'est Yellowstone, dans ce genre d'environnement avec des eaux à 80 degrés, on a découvert en fait une vie bactérienne foisonnante. Donc c'était totalement inattendu, puisque on ne s'attendait pas à ce que la vie vive là-dedans, mais il y en a. Évidemment, maintenant, on a plein d'exemples, donc j'imagine que vous n'êtes pas surpris. Et ces bactéries, on les appelle les extrémophiles, on en trouve partout, et ça a complètement changé à l'époque la façon de voir les choses, puisqu'on pensait que pour fabriquer la vie, il fallait des petites mares tranquilles, un petit peu, bon, c'est toujours vrai pour le développement de la vie, mais bon, là, je parle vraiment de l'apparition de la vie, par ces deux linéaires au vivant, des petites mares tranquilles avec un peu d'eau qui vient, des petites marées, etc., pour avoir le temps que les molécules s'assemblent, qu'elles sèchent, qu'il y ait de l'eau, etc. Et là, on se retrouve dans des cas absolument extrêmes. Et donc, en fait, finalement, ce scénario-là de la vie qui naît dans des environnements extrêmes, en fait, finalement, elle commence à avoir du support en 1960, à partir de ces découvertes d'extrémophiles, comme finalement des lieux possibles où on pourrait démarrer la vie. Alors, évidemment, c'est un sujet extrêmement complexe, avec beaucoup de débats, mais si vous êtes en dehors, si vous êtes dans des endroits qui ne sont pas profonds ou près de la surface, ben vous avez un soleil primitif qui est très actif, beaucoup de rayons ultraviolets qui cassent les molécules. Alors, ça peut les fabriquer, mais ça peut les casser aussi. Donc, c'est embêtant pour la chimie organique. Quand vous êtes dans des profondeurs de l'océan, vous êtes bien protégé, et on a vu que sur Terre, l'océan a toujours existé. Donc, il y a toujours eu des océans profonds sur Terre. En 1977, on découvre ces fameux fumeurs noirs qui sont sur les dorsales océaniques. Donc, j'ai mis un petit schéma en bas, on voit que le magma remonte et ça crache, vous voyez, de l'hydrogène, des molécules carbonées, du sulfure et des métaux, très importants les métaux. Et ces roches poreuses ont plus l'avantage d'avoir des petites cavités, des petits pores, où on peut avoir non pas ces gros courants qui émergent à 100 degrés ou je ne sais pas combien, mais des endroits beaucoup plus stables, d'accord, qui forment des sortes de petites coquilles. Et vous savez que la vie, pour se développer, la vie actuelle, elle a besoin d'une cellule. Elle s'enveloppe, elle protège son matériel génétique, elle s'enveloppe, elle ne peut pas juste exister comme ça, elle a besoin d'une cellule. Et donc ça pourrait tout à fait, des premières cellules ne seraient pas des cellules biologiques, mais des sortes de petites cavités qui auraient pu générer des cycles organiques et fabriquer des molécules qui, plus tard, auraient pu avoir des fonctions, peut-être certainement par hasard, des fonctions biologiques. Donc le métabolisme primordial pourrait conduire à des ancêtres de cellules, c'est-à-dire que des assemblages de molécules se trouvent à avoir des propriétés intéressantes qui sont sélectionnées après. Alors, est-ce qu'on peut parler de sélection naturelle à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais qui peuvent être sélectionnées et qui pourront être utilisées plus tard par la vie, et donc favoriser le développement de ce genre de processus. Et plus tard, donc fabrication ARN et ADN, probablement ARN et ADN, justement comme un hasard en fait, de molécules qui fonctionnent et qui permettent à un certain moment de stocker de l'information dans un deuxième temps. Alors, là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde les lignées génétiques, eh bien, en fait, on peut diviser l'entièreté du domaine du vivant en trois grandes branches, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Donc les bactéries, on appelle ça les eubactéries. E, ça veut dire vrai, ça veut dire qu'il y a vraiment. Donc eucaryote, c'est le noyau, eucaryote qui a vraiment un noyau. Donc les bactéries à droite, les êtres vivants à droite, les cellules à droite qui ont un noyau, et celles de gauche n'ont pas de noyau, donc c'est des cellules procaryotes, des bactéries. Et les archées, en fait, c'est des sortes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux bactéries, Mais on s'est aperçu, et ça c'est Karl Vose en 1977 qui a engendré un peu cette révolution, on s'est aperçu que ces bactéries, ces sortes de bactéries, c'était pas des bactéries, ces archées, qui étaient a priori très primitives, en fait elles étaient, du point de vue génétique, certaines dans leur ARN, étaient très proches en fait des eucaryotes, des cellules qui nous constituent, c'est-à-dire les cellules avec un noyau en fait. On n'est pas des bactéries, ça on le sait. Et donc finalement on s'est retrouvé avec cette branche des archées qui est très proche de nous, beaucoup plus que les bactéries, qui est vraiment un règne complètement à part. Donc ça, c'est les trois branches vivantes, et le truc extraordinaire, c'est que toute la vie sur Terre, toute, absolument toute, eh ben, elle est basée sur une seule, sur la molécule d'ADN et une seule branche, en fait. Donc tous les êtres vivants qui existent sur Terre, ils ont tous l'ADN, ils sont tous issus de la même branche. Et donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule création de la vie sur Terre. Il n'y en a pas eu deux, puisqu'elles viennent toutes identiquement de cette molécule d'ADN. Donc ça, c'est un signe que, quelque part, ça ne doit pas être courant. Parce que si on se trouve avec une seule branche, alors qu'il y a eu un certain temps, il y aurait pu y avoir une nouvelle création des milliards d'années plus tard, ça n'a pas été le cas. Donc, voilà, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est un événement absolument extraordinaire ? Voilà, ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir par rapport à notre question de la vie ailleurs. Alors, la cellule eucaryote, je vous ai montré ça, donc effectivement, son matériel génétique est enroulé, comme vous savez, dans des chromosomes, etc., et puis c'est très compliqué, elle utilise des nucléosomes pour s'enrouler, donc en fait, vous avez des chaînes très longues, mais elles sont tellement enroulées et compressées par ces espèces de molécules qui les compressent que ça tient très très peu de place. Donc ça, c'est partie aussi des choses extraordinaires du vivant. Alors ensuite, on continue un petit peu, on est encore dans les microbes, on essaie de savoir à quel point la vie sur Terre, et quelles sont ses particularités, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce que ça va couler de source ou pas, hein. Vous voyez déjà, on sent que il a fallu quand même probablement un peu de chance. Les bactéries fabriquent, les cyanobactéries notamment fabriquent pas mal d'oxygène, parce qu'en fait c'est leur façon de, c'est leur déchet. Et donc, dans l'histoire de la Terre, pendant quelques milliards d'années, elle rejette de l'oxygène. Et progressivement, vous voyez la courbe rouge et verte. Alors, le rouge, c'est maximum, et vert, c'est minimal. Donc, c'est quelque part, la bonne courbe étant entre la rouge et la verte. Et vous avez le taux d'oxygène qui est montré en ordonnée et en fonction du temps. Et on est à droite, on est à l'instant présent. Et donc, si on se rapporte à un bar, eh bien, vous voyez que le taux d'oxygène, à notre époque, il est de 20%. Par rapport à un bar, c'est ce qu'on sait, mais qu'il a, ça n'a pas été le cas, évidemment, et que cette oxygénation de l'atmosphère commence il y a à peu près 2,5 milliards d'années, en fait. Et au début, ce qui va se passer, c'est que cet oxygène, qu'est-ce qu'il fait ? Il oxyde, donc d'abord, il est récupéré, il oxyde le fond océanique, donc il est stocké, il va fabriquer des molécules, ça existe, et quand c'est saturé, il va commencer à dégazer, il va dans l'atmosphère, et quand il va dans l'atmosphère, donc vous voyez le taux qui augmente très doucement, mais il y a beaucoup d'oxygène produit. Quand il va dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'il fait ? Il va oxyder les terres, les roches. Il va oxyder toutes les roches. L'oxygène, c'est un très bon oxydant. Si vous avez quelque chose qui n'est pas oxydé, tout de suite, ça l'oxyde. Vous avez laissé un bout de fer quelque part, immédiatement, il va être rouillé, il va être oxydé. Et puis, quand tout ça, c'est bien oxydé, eh bien, il n'y a plus rien pour récupérer. Il n'y a plus de puits, plus de réservoirs d'oxygène. Et la quantité d'oxygène dans l'atmosphère va énormément augmenter. Et c'est ça qui, pour nous, est un marqueur de la vie sur Terre, l'utilisation de ce taux d'oxygène. Voilà. Et donc, il atteint, voyez, notre taux réel. Quand il ne peut plus être absorbé nulle part, et bien, il commence à remplir l'atmosphère. Alors, beaucoup de bactéries vont mourir. C'est une des grandes crises d'extinction, puisque c'est un poison, en fait. Mais certaines bactéries vont s'adapter et vont l'utiliser. Et par exemple, les mitochondries, qui sont probablement des petites cellules prokaryotes qui ont été intégrées par chance dans une cellule eucaryote. Donc, voilà la cellule eucaryote. En bas à droite, elle a un noyau, etc. Et puis elle a ces petites mitochondries qui sont écrites en violet, là, avec le petit signe à côté. Et elles ont probablement été intégrées. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont utilisé l'oxygène et elles ont fabriqué de l'énergie pour la cellule. Et donc la cellule s'est trouvée très bien, elle avait une grosse source d'énergie. Et sans mitochondries, on ne pourrait pas avoir de cellules performantes, on ne pourrait pas avoir d'êtres vivants multicellulaires parce qu'il n'y aurait pas assez d'énergie, en fait. Et donc ça, c'est des cellules spécialisées qui sont à l'intérieur de notre cellule qui nous permettent d'avoir cette énergie. Et ça s'est passé il y a 1,5 milliard d'années. Alors, il y a 1,5 milliard d'années, est-ce que ça aurait pu se passer il y a 2 milliards d'années ? Est-ce que ça aurait pu se passer il y a 500 millions d'années ? Est-ce que ça n'aurait pas pu se passer du tout ? Ça, on n'en sait rien. Ça fait partie des grandes questions auxquelles on ne peut pas répondre. Pas faire d'expériences qui durent des milliards d'années non plus. Alors, on va revenir maintenant un peu sur les exoplanètes, une fois qu'on a, ces idées un peu sur la vie sur Terre, et on va essayer de voir quelles sont les exoplanètes qui pourraient éventuellement nous intéresser. Donc, si on se base sur cette idée de haut liquide, qui est vraiment le point central quand on fait des exoplanètes, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Alors, c'est si vous prenez une planète, vous la mettez à une certaine distance de l'étoile, dans l'axe horizontal, c'est la distance à l'étoile, vous avez la Terre qui est située au centre. Les étoiles à gauche, eh bien, le soleil le jaune, vous avez le soleil, vous avez le système solaire, et vous voyez que si on met la Terre à la distance d'une unité astronomique, eh bien, elle est dans la zone bleue. Et la zone bleue, ça veut dire que, pour des conditions normales, vous mettez une planète, et si elle a un océan, elle peut la garder, avec pas mal de simplifications, mais on peut éventuellement avoir un océan liquide à la surface de cette planète. D'accord ? Donc ça, c'est un point important, parce que ça nous dit que si on est trop près de l'étoile, eh bien, il fait trop chaud, les éboulements s'évaporent. Si on est trop loin, tout gèle, et donc on ne peut plus avoir de liquide, évidemment, parce que tout est gelé. Et donc ça donne une certaine zone comme ça intéressante. Alors ça, on peut le voir d'une autre manière. Ici, on a, dans l'axe horizontal, cette fois-ci, on n'a pas la distance à l'étoile, mais on a le flux, la lumière qui est reçue par les exoplanètes, directement. D'accord ? Donc les courbes sont un peu différentes. On a toujours les types d'étoiles à gauche. Et on regarde dans les détections, alors je n'ai pas regardé exactement les derniers chiffres, parce que de toute façon, ça, c'est des choses qui évoluent assez rapidement, qui ne peuvent pas forcément consensuelles non plus. Mais l'idée, c'est que dans cette zone habitable, vous avez une vingtaine de planètes qui seraient dans cette zone habitable. Et évidemment, il ne faut pas que les planètes ce soient des géantes comme Jupiter, parce que sinon, vous n'avez même pas de surface. Donc ce serait, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Donc c'est vraiment des planètes qui vont ressembler, qui auront une surface solide, etc., où on imagine au moins, d'après leur masse et leur rayon, donc on va jusqu'à 1,6 fois le rayon de la Terre, typiquement, pour ce genre d'études. Et si c'est plus grand, on enlève, et si on regarde que ces planètes-là, et on les décrète, ou certaines personnes les décrètent comme habitables. Après, on peut discuter de tout ça. Donc, c'est très peu. Ça, c'est ce qu'on peut détecter. D'accord ? Donc, quand on se pose quand on essaie de voir les statistiques sur les exoplanètes, on a vu que les planètes sont la règle, mais combien on peut en détecter ? Et comme on a une grande diversité, ce qui est bien, parce que si on n'avait pas de grande diversité, on pourrait dire que le système solaire est totalement unique. On est l'exception qui confirme la règle, on pourrait dire ça. Mais le fait qu'il y ait une diversité, on voit bien qu'on ne peut pas être l'exception ni la règle. Donc c'est bien, comme ça on peut imaginer qu'il y a certainement d'autres systèmes qui ressemblent au nôtre. Mais les systèmes détectables, eh ben, ils seront beaucoup moins, parce que les autres ils seront soit inaccessibles, soit trop loin, etc. Donc le pourcentage réel estimé, il est probablement, ce que j'ai lu, parce que ça, c'est des études qui sont très, très spéculatives, c'est entre 0,5 et 50%. Voilà, ça vous donne une fourchette énorme. Ce n'est pas 10-5, ce n'est pas 0,0005, ce n'est pas non plus 100%. D'accord ? Donc ça, quand même, c'est un intervalle large, mais ça dit quelque chose. D'accord ? Et combien d'entre elles seront détectables ? Donc ça, c'est toutes les futures missions qui vont nous aider à répondre à ces questions-là du point de vue des exoplanètes. Et alors, pour revenir un tout petit peu sur la Terre et pour aller un peu plus loin, donc ça, c'est des planètes habitables. Vous avez compris que ce terme habitable, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément de la vie qui va apparaître. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de la vie dessus non plus. D'accord ? C'est une question de distance à l'étoile et des choses comme ça. C'est tout. C'est un critère assez simple. Mais quand on fait de l'astronomie, les astres sont loin et on est obligé de simplifier. La Terre, elle a bénéficié d'un thermostat géothermique extrêmement performant qui, justement, comme on l'avait dit, lui a permis de garder le liquide pendant toute la durée de sa vie. D'accord ? Et donc ça, c'est dû au fait que vous avez, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous avez la tectonique des plaques qui permet d'avoir des volcans. Et ces volcans, c'est des cheminées à gaz carbonique. Et le gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre. D'accord ? Donc quand il y a beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère, eh ben, la planète se réchauffe. Quand il n'y en a pas beaucoup, la planète se refroidit. D'accord ? Et quand il commence à faire froid, eh bien, il y a de moins en moins de pluie, et les pluies, elles peuvent dissoudre le gaz carbonique, et elles peuvent l'emmener dans les profondeurs de la Terre, donc elles enlèvent le gaz carbonique de l'atmosphère quand il pleut. Mais quand il gèle, quand il fait froid, ben, il n'y a plus de pluie, d'accord ? Et donc la température devrait baisser, mais comme il y a les volcans qui continuent à cracher du gaz carbonique, eh bien, ça fait remonter la température, et ça refait des pluies, et ça donne un cycle qui est comme ça, qui permet de stabiliser le cycle, qui permet de stabiliser la température à la surface de la Terre, et donc de garder un océan pendant toute sa durée de vie. Est-ce que la tectonique des plaques, par contre, c'est quelque chose qui est unique dans le système solaire ? Il n'y a pas d'autre planète dans le système solaire qui a de la tectonique des plaques. D'accord ? C'est une question de taille, c'est une question de viscosité, il y a plein de raisons. Alors, les exoplanètes dites habitables, est-ce qu'elles auront ou pas cette chance que la Terre a eue ? Donc ça, c'est une autre question aussi qu'on peut garder en tête. Voilà, j'arrive vers la fin de mon exposé. Donc, une fois qu'on a ces idées de système, on peut se poser la question maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et essayer de voir, déjà dans celles qu'on a détectées, est-ce qu'on peut essayer de voir s'il y a peut-être des signes de vie, hein, c'est notre objectif, la vie ailleurs. Alors, pour ça, on cherche des biosignatures. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une biosignature? C'est tout ce qui est généré par le vivant. Par exemple, sur Terre, c'est ce que génère le vivant. Et quand on est dans les exoplanètes, c'est tous les signes qui peuvent nous faire penser qu'il y a une forme de vie qui produit des choses observables qui seraient dues... une biosignature, ce serait un signal radio. Ça, c'est une biosignature. On reçoit un signal radio d'une civilisation extraterrestre, on sait qu'ils sont là, ils ont bien signé leur... D'accord, donc ça peut prendre des formes très diverses. Il ne faut pas se fier à un seul indicateur. Par exemple, quand on date la vie sur Terre, pour savoir si c'est des signatures biologiques ou chimiques, parce que des fois, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Il y avait ce fameux cas de cette météorite martienne qui avait été trouvée sur Terre dans les années 90, et que tout le monde avait dit que c'était des restes de virus, des restes de bactéries, pardon, et que finalement ça s'est révélé être simplement purement chimique, d'accord ? Donc faut faire attention à ça, sur Terre, il faut des fossiles et un environnement associé où on a trouvé les fossiles pour pouvoir corroborer tout ça. Dans le cas des exoplanètes, on va attendre, éventuellement, si on est capable de voir dans les atmosphères, on va essayer d'attendre plusieurs molécules qui peuvent ensemble nous dire qu'il y a de la vie. Par exemple, sur Terre, on détecterait de l'oxyde, du dioxygène, on détecterait du CO2, on détecterait du méthane, par exemple. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas simplement attendre un seul gaz, parce que sinon on risque de se tromper assez lourdement. Donc ça, c'est la recherche, ce serait ce qu'on aurait comme biosignature. Alors ça tombe très bien, puisque effectivement, pour un certain nombre d'exoplanètes, on est capable de sonder les atmosphères. Alors si on regarde la figure de droite, donc c'est un transit, une planète qui passe devant son étoile, et en fait, elle a une fine couche d'atmosphère. Et évidemment, la lumière de l'étoile, elle va traverser cette atmosphère. Et si on voit qu'il y a un petit liseré bleu autour, ça veut dire que la lumière nous parvient dessus. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette atmosphère ? Elle va filtrer le rayonnement, c'est ce qu'on voit sur la droite. Et donc, elle va empêcher certaines couleurs de passer, et d'autres couleurs, elle va les laisser passer. Et ces couleurs sont caractéristiques, évidemment, des molécules qu'il y a dans l'atmosphère. Okay ? Donc, c'est ce qu'on observe, un spectre. On décompose la lumière, on observe un spectre. Et donc ça a été fait, alors j'ai pris des données du télescope James Webb, mais il y en a beaucoup d'autres bien avant, notamment pour cet objet, où pour la première fois on détecte du dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète. Donc on avait détecté de l'eau, on avait détecté du monoxyde de carbone, on n'avait jamais détecté de dioxyde de carbone, donc ça s'est fait maintenant. Donc par contre là c'est une planète géante, pas une planète du tout rocheuse. Mais voilà ce qu'on est capable de faire, regarder la courbe théorique en bleu et les points de mesure. C'est une signature très très claire du gaz qu'il y a dans ces atmosphères. Je mets un autre cas, donc une atmosphère plus, cette fois-ci avec plus de molécules, donc avec différentes molécules. Alors évidemment, il faut regarder les points blancs par rapport en bleu. Le bleu, c'est le modèle, d'accord ? Il faut regarder est-ce que les points sont bien dessus ou que sont les barres d'erreur. Il ne faut pas juste dire c'est joli et ça passe à peu près. Les gens regardent en détail pour savoir si la ligne moléculaire, la raie moléculaire, elle est confirmée ou si il y a trop d'incertitudes, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on est capable de faire avec ces instruments. Et donc, il y a une sonde qui partira, un satellite qui s'appelle Ariel, qui va explorer les atmosphères d'exoplanètes, notamment. Je parle des satellites, il y a beaucoup d'expériences au sol, etc., évidemment, qui ira explorer dans une sonde de l'ESA, qui ira explorer les exoplanètes, un certain nombre, pour essayer de faire des portraits comme ça de différents types d'exoplanètes et de leurs signatures spectroscopiques, en voir un petit peu ce qu'elles ont dans leur atmosphère. Évidemment, il y aura aussi l'ELT, l'Extremely Large Télescope européen, 39 mètres de diamètre, le miroir. Alors là, c'est un mélange de construction, un mélange d'images de synthèse. Voilà, il n'est pas comme ça encore. Au Chili, et qui fera certainement aussi faire des progrès énormes au domaine des exoplanètes. Et il y en a d'autres. Juste une petite remarque au sujet des océans subglaciaires, des lunes glacées, parce que ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. En fait, on a découvert sur Europe, Ganymède et Encelade, grâce aux sondes qui sont passées à côté, on s'est aperçu qu'il y avait des anomalies de gravité qui montrent qu'il y a des océans glacés plus ou moins importants dans ces lunes, soit de Jupiter, soit de Saturne, Encelade. Encelade, c'est tout petit, c'est 500 km seulement. Et en fait, quand la sonde Cassini-Huygens s'est passée à côté, qu'est-ce qu'on a vu ? Ah, je ne l'ai pas mis, désolé. Ah si, je l'ai mis à droite. Regardez, à droite, j'ai rajouté quelque chose. Et on voit des petits panaches. D'accord ? Donc, c'est des éjections de ce qu'il y a dedans. D'accord ? Donc, la question, c'est... Ça, c'est extrêmement important, très intéressant pour le système solaire. Si on arrive à voir un peu pour le côté apparition de la vie, la chimie prébiotique, est-ce qu'on est capable... Pourquoi ? Parce que vous avez un océan qui se retrouve sur une croûte, et il y a du volcanisme. Ça rappelle beaucoup les fumeurs noirs. Donc on se dit, c'est peut-être un lieu où la vie peut apparaître, même s'il n'y a pas de lumière. Peut-être la vie n'a peut-être pas du tout besoin de lumière pour apparaître. Après, pour se développer, c'est autre chose. Le problème qu'on a, c'est que dans le meilleur des cas, il faudrait détecter des panaches, et ça, du point de vue des exoplanètes, c'est extrêmement loin. Donc les chances sont probablement extrêmement faibles de détecter de la vie sur des exolunes typiquement glacées. Donc ça restera des choses réservées au système solaire pour étudier les formes, le début peut-être, voilà. Ce sera restreint dans le système solaire, pas pour les exoplanètes. Donc il y a deux missions, je suis obligé de les mentionner. JUICE qui est parti, Europa Clipper qui va partir, qui va aller observer, qui va aller s'intéresser à ces lunes glacées de Jupiter. Voilà. Donc finalement, on a parlé beaucoup de l'apparition de la vie et des microbes. On a vu que c'était quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui paraissent quand même très peu évidentes en tout cas. Et il y a 541 millions d'années seulement, pour le dire, la vie 4,56 milliards d'années et à peine 541 millions d'années, ça me paraît extrêmement proche. Il y a eu l'explosion cambrienne, toutes ces cellules eucaryotes avec un noyau, elles ont beaucoup d'énergie, elles ont pu fabriquer des objets, des êtres multicellulaires. Et notamment, j'aime bien cette image là, du muséum, où on voit cette anomalocaris, cette espèce d'objet de bestiole absolument extraordinaire, là, qui est celle qui est un peu orange, et qui se développe avec plein d'autres animaux multicellulaires sur à peu près 50 millions d'années. C'est explosion, mais c'est explosion relative, c'est sur 50 millions d'années quand même. Et on a, à ce moment-là, une extrême profusion de formes de vie. D'accord ? Mais ce n'est pas apparu à partir de rien, c'est une évolution de choses qui étaient plus anciennes et dont on a retrouvé plus tard des fossiles. Et donc, on sait qu'il y a une continuité, il n'y a pas quelque chose de brutal. Voilà. Et donc, une fois qu'on est arrivé à la multipluralité, donc après, c'est l'histoire de la Terre. Et l'histoire de la Terre, je voulais juste mentionner que l'évolution du vivant est parsemée d'énormément de crises de la biodiversité. Vous savez qu'il y en a 15. Alors, on parle de la sixième de façon un petit peu, évidemment, politique, probablement, et aussi probablement réelle si on ne fait rien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'histoire de la vie est parsemée de ces extinctions massives. Et à chaque fois que vous avez une extinction massive, vous avez libération de la niche écologique. Et quand les dinosaures sont disparus, ça a permis aux mammifères de se développer, et c'est pour ça qu'on est là. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier juste dire que ça va se développer, on va avoir la vie intelligente. Il n'y a aucun, a priori, aucune nécessité cosmique pour que la vie intelligente se développe. C'est un arbre et c'est un hasard que des individus avec un cerveau développé et soit apparu et en plus ait pu se reproduire de façon arrivée jusqu'à nous. Voilà. Et on sait, d'après les études faites parmi les populations préhistoriques, les restes préhistoriques, que probablement à une période de l'année, le Homo sapiens s'est apparu il y a 300 000 ans seulement, et qu'il y a à peu près un moment où la population était au plus basse, peut-être on n'avait que 10 000 individus de type Homo sapiens, donc on aurait très bien pu disparaître. Et ce qui a fait peut-être qu'on n'a pas disparu, que nos ancêtres n'ont pas disparu, et qu'on a survécu surtout, et ça a été aussi démontré par les gens qui font ce genre d'études, c'est que bon, d'une part, l'homme, l'Homo sapiens, est capable de se déplacer pour chercher la nourriture, alors que beaucoup d'autres vivants, quand la nourriture vient à manquer, ils meurent simplement et puis ils disparaissent, ils ne peuvent pas migrer. Donc les Homo sapiens ont pu migrer parce qu'ils avaient probablement cette capacité à collaborer, à fabriquer des petits villages et à devenir nomades, alors qu'il n'y avait aucune raison d'être nomade. Il y a très peu d'espèces nomades comme ça qui se promènent sur des continents entiers. Donc ça, c'est une leçon à retenir. La collaboration, ça a été probablement notre salut, le salut de l'espèce. Pas le nôtre, le salut de l'espèce. Voilà. Oups. Voilà. Vous avez vu la fin, il n'y a rien de secret. Donc on arrive à Homo sapiens à droite. Et je voulais juste finir un peu par le côté, un peu pour revenir un petit peu au début, sur le côté civilisation technologique. Donc qu'est-ce que c'est que la civilisation technologique ? Finalement, c'est la civilisation. Donc ça, c'est très récent, évidemment, tout le monde le sait. Et donc, en fait, on n'a pas de recul sur le fait qu'on puisse passer d'un mode de vie très rural à un mode de vie complètement technologique. Ce qui est intéressant, c'est que quand les civilisations, il y en a eu plusieurs sur Terre, et elles se sont éteintes. Les Mayas, les civilisations gréco-romaines, elles ont laissé place à d'autres civilisations. Mais la civilisation technologique, c'est mon avis, en fait, c'est une civilisation qui n'est pas anodine parce qu'elle est globalisante. C'est-à-dire que quand la technologie se développe quelque part, elle impose finalement à toute la planète ce côté technologique. On ne peut pas échapper à la technologie, on peut, mais ça reste dans des petites niches, en fait. Donc c'est très différent des civilisations qui nous ont précédés. C'est une civilisation qui englobe et qui est probablement, et ça on ne peut pas le savoir encore, probablement sans retour du point de vue de la volonté de la population. Donc ça c'est important, parce que pour la première fois, c'est l'espèce qui décide elle-même et ce n'est pas les éléments naturels qui font qu'on disparaît ou pas. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a ? Ça veut dire qu'on a une responsabilité aussi en tant qu'individu pour maintenir notre civilisation en place. Et ça, c'est une question qui va se poser dans la vie ailleurs. Qu'ont fait les autres civilisations si elles existent ? Est-ce qu'elles ont été raisonnables, on pourrait dire comme ça ? Alors, est-ce qu'on peut... Donc, ces civilisations technologiques, elles ont comme base pratiquement un point important, la communication dans la civilisation, mais aussi communication éventuellement à l'extérieur, pour se demander, on utilise la communication pour savoir si on est seul ou pas. Et donc, je vous rappelle la fameuse phrase de Blaise Pascal en 1623-1662, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Eh bien, en 2024, on a écouté les étoiles, et puis c'est le silence radio. Donc, on n'est pas beaucoup plus avancé que Blaise Pascal, et on peut toujours être aussi effrayé par le silence des espaces infinis. Alors, une dernière question qui se pose, je l'ai mis, c'est la durée de vie des civilisations. Donc, la durée de vie des étoiles est limitée, de toute façon. Donc, on a, pour toutes les étoiles, il y a un créneau à peu près de 2 milliards pour l'étoile comme le Soleil, un créneau de 2 milliards d'années dans lequel la vie doit démarrer, elle doit se développer, et éventuellement arriver à une civilisation technologique. En fait, c'est extrêmement court. Parce que si on regarde l'histoire de la Terre, on n'en a qu'un, donc c'est difficile à dire, on voit bien que les chiffres n'ont pas de logique. On a apparition probablement des premiers êtres vivants 300 millions d'années après la formation de la Terre, et puis après on attend des milliards d'années, puis d'un seul coup on a une cellule qui se transforme et qui utilise l'énergie lumineuse, une autre qui utilise l'énergie d'oxygène, et d'autres qui deviennent multicellulaires, etc. Donc on voit bien que quand on regarde les dates, il n'y a pas de logique particulière, donc on ne peut pas du tout dire que ça s'est produit ailleurs facilement. Les crises générées du point de vue civilisation, les crises générées par l'utilisation exponentielle des ressources naturelles, elles ont un impact grave, ça on le sait, parce que ça fait peu de temps qu'on est une civilisation technologique et on voit déjà les effets, donc c'est extrêmement court sur l'histoire, vous voyez, de l'humanité. Et par contre, on ne connaît pas le degré exact. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est absolument... Il vaut mieux prendre des précautions. Et aussi, rien ne garantit du tout la stabilité du climat en cas de modification importante, et ça, c'est le côté crise climatique. Voilà. Donc tout ça, ce qui s'applique chez nous, ça s'applique aussi évidemment aux autres civilisations, et on doit le prendre en compte. Et effectivement, je n'ai pas montré l'équation de Drake, qui est la fameuse équation où on essaie d'estimer des pourcentages d'étoiles qui ont des planètes, etc. Et dans cette équation-là, il y a aussi un terme qui avait été mis dès le départ, c'est la durée de vie des civilisations. Ça, c'est vraiment un point important, on ne peut pas du tout l'éluder. On ne peut pas juste dire, alors si on se met sur une étoile plus petite qui vit plus longtemps, on aura d'autres problèmes. Par exemple, que l'étoile va mettre beaucoup plus de temps à se refroidir, et donc il va falloir garder des océans beaucoup plus longtemps, et la plupart du temps, ils risquent de s'évaporer, des choses comme ça. Donc, c'est tout un tas de choses comme ça. Et donc, on voit bien que ce n'est pas du tout évident de garder une civilisation. Donc, pour la Terre, nous, on est face à nous-mêmes. Je crois qu'il faut être conscient de ça. Voilà, donc un petit bilan provisoire. Je ne mets pas de texte. je grave rien dans le marbre. Mais j'ai l'impression, effectivement, que la vie microbienne et même le démarrage de la vie est certainement quelque chose qui est plutôt rare dans notre galaxie, en tout cas, parce qu'on ne va pas regarder les autres galaxies, elles sont tellement lointaines qu'on ne saura jamais rien sur les autres galaxies, il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, c'est probablement rare. Et si on regarde les planètes habitables, on a vu que sur les 5200 détectées dans la zone habitable, il n'y en avait plus qu'une vingtaine, donc c'est encore plus rare. Et les civilisations technologiques, pour l'instant, on n'a pas de message, donc on ne peut pas dire si elles existent ou pas. Et elles sont, je pense, évidemment, encore plus rares. Donc, la question, c'est, la vie est rare. Mais probablement, comme beaucoup, je ne peux pas me résoudre à ce qu'on soit les seuls dans la galaxie. Et donc, je me dis, est-ce qu'on sera capable de détecter ces quelques formes de vie qui existent probablement dans la galaxie ? Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Arnaud pour ce panorama large qui va de la biologie à l'astrophysique. Alors je vais prendre des questions dans le public, il y a aussi des questions, des commentaires sur le chat. Alors il y a des avis qui se disent, alors oui, vu l'étendue, le temps qu'on a, il y a des gens qui pensent quand même qu'il devrait y avoir de la vie ailleurs. L'une des questions qui est posée sur le chat par rapport à ça justement, c'est sait-on si le système solaire est commun ? Est-ce qu'on sait répondre à cette question aujourd'hui ?
Alors, le système solaire, il n'est pas commun. Enfin, il est, ça tout dépend de comment on prend la question. Il n'est pas commun dans le sens où on a peu de systèmes planétaires où on a des planètes géantes comme Jupiter, par exemple. Donc, ensuite, la réponse que je donnerais, c'est que ce qu'on observe vraiment, c'est la diversité. Et quand on est dans la diversité, ben, on peut, comme on a quand même 8 planètes, ben, est-ce qu'on prend en compte les planètes qui nous intéresse pour dire est-ce qu'on est commun ou pas, est-ce qu'on prend en compte toutes les planètes, donc ça fait beaucoup de paramètres. Finalement, c'est une question où on a beaucoup de mal à répondre, mais si on accepte cette idée de diversité, eh bien on voit qu'on n'a pas de raison de penser qu'on est l'exception ou la règle, comme je l'avais dit.
Alors, une question dans le public, il y a ici.
C'est à propos de l'arrivée sur Terre d'autres formes de vie. Bon, en raison de la vitesse de la lumière, ça nous, je dirais, protège un peu d'une arrivée matérielle. Mais on a un programme comme par exemple SETI qu'on écoute et qui nous envoie pour l'instant des signaux. S'il existe d'autres formes de vie, pourrait-on imaginer que ces autres formes de vie nous envoient des signaux que nous capterions et qui pourraient se comporter comme des virus informatiques ? Et qui nous menacerait.
Alors, il y a peut-être des civilisations qui nous envoient des messages. Et en fait, c'est pas si simple que ça. C'est donc il y a eu un grand moment du SETI où on avait ils avaient envoyé en fait un message radio vers je sais plus me rappelle plus quelle étoile. Et en fait, manque de bol, comme toutes les étoiles bougent dans la galaxie, si vous visez une étoile. Eh bien, en fait, le signal, au bout d'un certain temps, il va arriver complètement ailleurs, en fait. Donc, en fait, vous ne pouvez pas viser facilement les étoiles, parce qu'il faudrait connaître exactement, vous voyez, parce que si vous envoyez un faisceau qui est réparti sur une sphère, eh bien, sa puissance va diminuer énormément. Si vous envoyez un laser, vous gardez la puissance sur un petit pinceau, c'est beaucoup mieux. Mais si vous visez mal, le signal, au lieu de partir vers l'étoile, il va faire deux fois plus de distance, et alors là, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Donc, ça, c'est le problème de l'émission, des émissions radio. C'est que si on veut que le signal soit fort, il faut viser, mais on ne sait pas vraiment viser. Et si on envoie le signal partout, ben la puissance est tellement faible qu'on risque de rien recevoir. Voilà. Donc après, je pense que ça répond, c'est-à-dire en fait, il faudrait vraiment être chanceux pour recevoir un signal, probablement.
Alors une autre question sur le chat, sur les conditions de la vie. Est-ce qu'il faut nécessairement un soleil pour qu'il y ait la vie ? Est-ce qu'il faut nécessairement de l'eau pour qu'il y ait la vie ? Est-ce qu'on sait donner des éléments de réponse à ces questions ?
Alors nécessairement, c'est très fort. C'est l'hypothèse la plus probable. Après, on peut toujours imaginer les gens imaginent toujours des cas extrêmes, la vie qui utilise d'autres molécules, etc. Mais on n'a pas de raison de penser que l'eau ne soit pas très importante. Donc, si on veut être raisonnable et faire des recherches qui ont un sens au point de vue astronomique, après, si on fait des expériences dans son laboratoire, c'est différent. Mais si on se place dans le cadre astronomique, il faut qu'on vise des choses pour lesquelles on a des chances. Voilà. Et donc, l'eau, ça paraît vraiment indispensable, en tout cas, indépendamment de sa nécessité absolue. Voilà.
D'autres questions dans le public, ici ? Oui ?
Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de la vie, mais je suppose que c'est la vie dans la galaxie. Parce que si c'est une vie extragalactique, les distances sont tellement longues qu'aucune civilisation ne nous serait jamais parvenue. Et si la vie existait dans notre galaxie, il y a des civilisations qui seraient plus en avance que nous, qui nous auraient déjà approchés. Qu'en pensez-vous ?
Alors déjà, à la fin de cette petite conférence, j'ai vraiment parlé de cette idée de durée de vie des civilisations, parce que c'est vraiment ça, ce genre, l'argument que vous présentez à la fin, il vraiment rentre dans cette case. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on aura des civilisations beaucoup plus avancées? On n'en sait rien, parce qu'on n'a pas, on ne sait pas ce que ça veut dire plus avancé, puisque on ne peut pas deviner des choses qu'on n'a pas découvertes. Est-ce que des choses plus avancées, est-ce que ça prendrait quelques centaines d'années, des centaines de millions d'années ou des milliards d'années? Dans ce cas-là, on arrive à la fin de vie de l'étoile, de toute façon, il n'y a plus personne qui est là pour en parler. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième partie de la question. On ne peut pas juste dire on va attendre longtemps, il y aura des civilisations, parce que tout est très limité en fait. Il y a des temps pour faire les choses et après c'est trop tard. D'accord, donc voilà, ça c'est un point important. Et le deuxième, effectivement, vous avez raison, que si on se pose la question de la vie, et ça souvent les gens, c'est peut-être un petit abus de langage peut-être, dans la vie, dans l'univers, qu'est-ce que ça veut dire l'univers? On ne connaît même pas les frontières de l'univers. On a une partie de l'univers visible, ça c'est ce qu'on sait, oui, mais on ne sait même pas ce qui se passe après, parce qu'il n'est pas visible l'univers. Et donc ça n'a pas beaucoup de sens de parler de vie dont on ne pourra jamais rien dire en fait. Donc même les galaxies proches déjà, on ne peut rien dire. Alors il y en a une qui est intéressante, c'est quand même la galaxie d'Andromède, puisqu'elle arrive sur notre Voie lactée. Et puis dans quelques temps, elles vont merger, elles vont fabriquer une grosse galaxie. Il y a des gens ici qui travaillent sur la simulation numérique, qui montrent à quoi ça ressemblera dans un milliard d'années ou je ne sais plus combien. Je ne peux pas dire de bêtises. Et dans ce cas-là, on pourrait tenter effectivement voir sur les étoiles d'Andromède ce qui se passe. Mais sinon, les galaxies sont beaucoup trop loin, on peut rien voir. Les exoplanètes qu'on détecte, elles sont dans notre voisinage, elles sont relativement dans notre voisinage. On arrive en gros jusqu'au centre galactique, mais guère plus loin. Ce qui est déjà énorme. C'est-à-dire, en fait, à partir de ces données, on peut extrapoler beaucoup, parce que la galaxie, elle n'est pas totalement différente dans notre ligne de visée, dans notre voisinage. On connaît les particularités de nos voisinages, et on peut extrapoler d'une manière ou d'une autre à d'autres voisinages. D'accord ? C'est ça qui nous permet d'extrapoler après. Donc ça, c'est important d'avoir un échantillon qui soit très bien compris localement dans notre galaxie. Et puis après, si on se rend compte que dans notre galaxie, il y a que de la vie partout ou il n'y en a pas du tout, donc toutes les galaxies qui spiralent, qui nous ressemblent, on pourra aussi inférer des choses, probablement. Pour l'instant, on n'a pas trouvé qu'il y avait une nécessité cosmique ou pas à avoir de la vie sur les planètes. Par contre, on a trouvé qu'il y avait une nécessité physique à avoir des planètes autour des étoiles.
Alors j'ai une question sur le chat qui fait un peu dans la provocation, donc je vais te la transmettre, elle me paraît intéressante. Alors la question est celle-ci, est-ce scientifique de faire des spéculations sur ce qu'il est impossible de vérifier?
En fait, il y a ce qui est absolument impossible de vérifier, effectivement ça n'a pas de sens, ça je suis d'accord, mais là on n'est pas dans ce cas. On est dans un moment où on a vu qu'il y a depuis à peine une vingtaine d'années, on est capable d'avoir des informations qu'on n'avait pas il y a 20 ans, et même il y a 10 ans, sur la population d'exoplanètes, sur ce qu'il y a dans leurs atmosphères. Donc en fait, il faut plutôt voir ça comme une perspective, en fait, une perspective. Rien ne nous dit qu'on ne recevra pas un signal, rien ne nous dit qu'on n'observera pas dans une exoplanète tout un tas de molécules qui nous feront penser que la vie est très très probable. Donc ce n'est pas de la spéculation pure, c'est de la perspective sur la manière dont on peut utiliser la science aujourd'hui pour essayer de répondre à cette question plutôt.
Merci. Je vous propose de prendre une dernière question dans la salle, s'il vous plaît.
Bonsoir. Merci pour la conférence, c'était génial. Merci beaucoup. Ma question, c'est, vous avez dit que par spectrométrie, vous aviez détecté de l'eau dans l'atmosphère. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a des océans ou pas sur des exoplanètes?
Non. Non, parce que... Il y a plein de façons d'avoir de l'eau. Enfin, s'il y a de l'eau, oui, s'il y a de l'eau dans l'atmosphère, c'est qu'il doit y avoir de l'eau liquide. Après, on ne peut pas dire ce que c'est. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas détecter des océans, malheureusement. On ne peut pas parce que... Voilà. Donc, on ne peut pas déduire beaucoup, en fait, de ça. On sait qu'il y a de l'eau. Après, ça va dépendre des conditions physico-chimiques, hein, parce qu'une molécule d'eau, elle peut être gazeuse, elle est liquide, glacée, et puis en fonction de la pression, de la température... On ne peut pas savoir, sur Mars, on ne peut pas avoir de liquide, par exemple. Donc, parce qu'il n'y a pas assez de pression, voilà, typiquement. Donc, on dit dur d'en déduire des choses comme ça.
Eh bien, merci. Donc, je vous rappelle que nous marquons une pause estivale et nous retrouvons le 3 septembre prochain dans cet amphithéâtre avec une conférence d'Éric Lagadec intitulé « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Donc merci à tous d'être venus, merci à ceux qui nous ont suivis sur Internet, et puis merci à Arnaud pour cette conférence. Voilà, merci, bonsoir. Merci.